Un débat ce soir sur le rôle, sur le poids des technologies, de l'innovation dans le changement climatique. Car nous savions déjà que certains responsables politiques, certains éditorialistes également, leur accordent une place trop grande, presque magique. Mais qu'en est-il des scientifiques et en particulier de celles et ceux qui forment les rangs du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat? Porte-t-il un regard lucide sur ces questions? En quoi notre premier invité? Eh bien non. Bonsoir Jean-Baptiste Fressoze.
Bonsoir.
Vous êtes historien des sciences et des techniques, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées. Face à vous, dans le studio, au moins, Nadia Maizy. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'École des mines de Paris, directrice de The Transition Institute 1.5 et co-autrice du 6e rapport du GIEC. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir. On savait, Jean-Baptiste Fressoze, que certains responsables politiques, certains éditorialistes, j'en passe, pouvaient parfois cibler, même attaquer les scientifiques du climat. C'est ce que vous faites dans un article passionnant, vous pourrez me contredire, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, en attaquant certains, en expliquant qu'ils sont peut-être trop technophiles, qu'ils croient trop dans les vertus de la technologie, de l'innovation pour avancer sur le chemin du changement climatique. Qu'est-ce que vous avez voulu expliquer dans cet article alors ?
Alors cet article, en fait, c'est pas du tout une attaque ou quoi que ce soit, c'est une histoire. C'est l'histoire d'un champ scientifique qui est la science de la mitigation, la science de la diminution, comment on fait diminuer les émissions de CO2. Et c'est vrai que le groupe 3 du GIEC a joué un rôle important et c'est une source extraordinaire parce qu'ils font la synthèse de toute cette littérature. Donc c'est extrêmement pratique pour un historien pour saisir une littérature évidemment absolument gigantesque.
C'est le groupe, hein, je le précise, qui réfléchit aux questions d'atténuation du changement climatique et d'évaluation des méthodes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Et l'histoire, bah, c'est vrai que des fois, elle n'est pas... On n'est pas là pour faire une histoire gratifiante, forcément. On raconte ce qui s'est passé. Alors, faut savoir déjà que quand le GIEC est créé en 1988, son but, c'est plutôt de ralentir l'alerte. Il y avait déjà eu des expertises internationales pilotées par l'UNEP, l'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement, qui étaient assez catastrophistes. Et quand on va dans les archives américaines, très clairement, le gouvernement américain dit il faut qu'on crée un nouveau groupe où on remet les gouvernements dans la boucle. Et on veut que les gouvernements ne nomment pas que des représentants du ministère de l'Environnement ou des représentants du ministère de la Recherche scientifique. On veut des représentants du ministère de l'Industrie, de l'Agriculture. On veut aussi des industriels. On veut mettre des gens sérieux dans ce groupe-là. De manière intéressante, le président du groupe 3 du GIEC, à ce moment-là, il s'appelle Robert Reinstein, c'est un Américain, il est ouvertement climato-sceptique. Vous voyez, le président du groupe 2 est aussi ouvertement climato-sceptique. Donc vraiment, il faut revoir ce que c'est le GIEC au départ. Ça, c'est un premier apport de l'histoire. Alors, l'histoire aussi, quand on regarde la suite des rapports, on voit qu'il y a une écrasante domination des discussions sur la technologie. C'est pour ça que je me suis amusé à faire quelques petits graphes, c'est juste pour montrer qu'on parle essentiellement de technologie. Et je dirais, c'est pas très surprenant, c'est normal. Parce que là, vous demandez à des ingénieurs, à des scientifiques de trouver des solutions pour diminuer les émissions de CO2, ils vont essentiellement proposer des solutions technologiques. Il n'y a pas du tout de scandale là-dedans. Donc il y a un biais.
Pas de scandale, mais des conséquences néfastes que l'on peut pointer tout
de
même.
Oui, voilà, je vais dire. Mais en gros, il y a un biais structurel qui fait que la littérature sur la mitigation parle beaucoup plus de solutions technologiques que de réfléchir à la diminution de la demande, à changer la société ou quoi que ce soit. Mais c'est normal, une fois encore. Donc c'est un biais, il existe. Et je pense que ce serait le rôle du groupe 3 du GIEC, qui commence à le faire d'ailleurs, à prendre en compte qu'il y a ce biais et essayer de le contrôler, essayer de le contenir. C'est tout à fait normal. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur un certain nombre de technologies, pas toutes les techniques, ça n'a aucun sens de parler des technologies en général, évidemment. Sur un certain nombre de techniques, le groupe 3 du GIEC a poussé des techniques qui n'ont à peu près aucun sens, qui sont un peu absurde. Et c'est pour ça que dans la seconde partie de l'article, je parle de deux technologies principales, la capture et le stockage du carbone. Et ensuite, la bioénergie avec capture et stockage du carbone, c'est une technologie absolument clé dans les scénarios de neutralité carbone. Et ces deux techniques, on pourra y revenir, en fait, on voit, si on trace leur histoire, on voit assez facilement l'influence en fait, des lobbies fossiles. Et c'est pour ça que le groupe 3 du GIEC, à mon avis, a joué un rôle, pour le coup, sur ce point-là, précisément, très problématique.
Nadia Maizy, vous qui êtes qui êtes co-autrice de ce rapport 3 du GIEC, expliquez-nous justement peut-être même comment vous travaillez et est-ce qu'il vous semble à vous aussi que dans les discussions que vous avez avec vos collègues dans ce domaine, la place des technologies est prépondérante, voire trop importante?
Alors, je pense qu'il faut remettre en perspective la façon dont on construit ce rapport dans le groupe 3. Donc, Jean-Baptiste vient de le dire, c'est une partie qui est spécialisée sur les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, la structure de ce rapport, elle se divise en un certain nombre de chapitres. Donc, je dirais que grosso modo, il y a une première partie qui va traiter des scénarios et qui va donner donc la vision que un certain nombre d'équipes autour de la planète ont des trajectoires technologiques qui permettent d'aller vers une neutralité carbone ou de ne pas l'atteindre. Et puis ensuite, on va passer en revue les différents secteurs et on va regarder dans ces différents secteurs quelles sont les technologies qui sont pertinentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce rapport, ça s'appelle un rapport d'évaluation. Donc en fait, le GIEC ne dit rien en tant que tel.
Il n'y a pas de recommandation.
C'est-à-dire que le GIEC ne fait que récolter tous les travaux scientifiques et il va leur donner une évaluation au sens de est-ce qu'il lui accorde de la confiance, est-ce qu'il lui donne un certain niveau de pertinence en probabilité. Donc tous les résultats du GIEC sont synthétisés dans des résumés dans lesquels vous verrez toujours entre parenthèses une qualification de la pertinence ou pas du résultat qui est énoncé. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des résultats qui sont medium agreement, low confidence, c'est-à-dire accord moyen, confiance basse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de travaux sur le sujet ou que les travaux sont divergents les uns avec les autres. Et donc, c'est vraiment une restitution de la connaissance scientifique. Et à partir de là, ça traduit l'intérêt que les scientifiques vont avoir pour un certain nombre de sujets, en particulier les technologies, puisque on va avoir énormément de scientifiques qui vont être plutôt des ingénieurs qui vont travailler sur le développement des technos et les innovations derrière. Et puis, on va avoir tous ceux qui travaillent sur les modèles et les scénarios qui ne vont pas forcément être des ingénieurs, qui vont être plutôt de la communauté des économistes. Et moi, je dirais que ceux-là, ils ont une vision de la technologie qui est un peu moins spécialisée et qui va parfois être utilisée. Alors, quand moi j'ai commencé ma carrière, on disait carrément dans les trajectoires qu'on avait qu'il y avait un pool de technologies qui s'appelait les « to be defined », c'est-à-dire celles qui n'existent pas encore. Mais on fait confiance, en fait, au progrès pour dire que d'ici peut-être 20, 30, 40 ans, il y aura bien une techno qui va nous permettre éventuellement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc je pense qu'il faut vraiment comprendre quelle est finalement la sociologie de l'ensemble de ces chercheurs qui participent. Ils sont 250, 300, enfin on était 250, 300,
je crois. Sur les modélisateurs qui font les scénarios net zéro, maintenant c'est une énorme communauté, ils ont un consortium, ils annoncent sur leur page web 1800 chercheurs.
Qui ne sont pas dans le GIEC. Je parle de ceux du GIEC.
Ah oui, Jean-Baptiste Fraisseau, le fait de parler de ces technologies, d'en parler abondamment dans ce rapport du GIEC, est-ce que cela signifie nécessairement que ces scientifiques les soutiennent? Il y a bien sûr une différence entre en parler et les soutenir.
Bien sûr. Alors en fait, il y a plein de contradictions quand on lit le rapport in extenso, puisque dans les modélisations net zéro, on explique, y compris dans le dernier rapport, même ça avait été critiqué en 2014, il y en a encore beaucoup en 2022.
Les modélisations net zéro, c'est les modélisations pour parvenir à la neutralité carbone.
À la neutralité carbone, environ vers 2050 ou un peu plus, il faut avoir des émissions négatives. Donc, avoir des machines qui vont récupérer le CO2 de l'atmosphère pour l'enfouir sous le sol, entre 3 gigatonnes et 12 gigatonnes par an, entre 2020 et 2100. Bon. Ces émissions négatives, comment on les fait? On les fait avec ce qu'on appelle de la bioénergie avec capture du carbone. On va brûler des arbres pour faire de l'électricité. Et ensuite, le CO2 qui sort à la sortie des cheminées, on va l'enfouir sous le sol. Il y a une étudiante qui s'appelle Lou Schurenberg qui a fait un mémoire magnifique sur comment on est arrivé à cette solution assez étrange avec Franck Lecoq et moi, qui est maintenant une étudiante d'ailleurs de Nadia Maizy. Et elle raconte très bien, en fait, ce qui s'est passé. En gros, vous avez des modélisateurs qui se disent, on va proposer une technique qui va nous permettre d'atteindre la neutralité carbone à moindre coût. Et c'est une sorte de course à l'échalote à qui mettra le plus d'émissions négatives pour arriver à la neutralité carbone en 2050 à moindre coût. Alors, ce serait pas très grave. Le problème, c'est que le rapport sort en 2014. On est juste avant l'accord de Paris. Et en fait, on a signé cet accord de Paris sur des technologies qui n'existent pas. On ne fait absolument pas de bioénergie avec capture du carbone. Dans les modèles extrêmes, il fallait deux fois la superficie de l'Inde en plantation forestière pour produire le bois qui permettait de faire ces émissions négatives en quantité suffisante. C'était absolument grotesque. Ça a été tout de suite dénoncé, d'ailleurs. Il y a un moment, en 2017, il y a une lettre écrite par les Académies européennes des sciences qui disent on ne peut pas miser l'avenir de la planète sur des technologies qui n'existent pas. Ça a été extrêmement critiqué. Et moi, je trouve qu'en 2022, il y en a encore beaucoup, beaucoup trop. Alors certes, ils ont réduit la valeur, mais il y en a encore énormément.
Nadia Maïdi, sur ce point précis, comment se fait-il que des scientifiques du climat, on l'a bien compris, ce sont des équipes extrêmement pluridisciplinaires, il n'y a pas que des spécialistes du climat parmi les experts du GIEC, mais que tout de même, comment se fait-il qu'ils misent sur des technologies dont l'efficacité n'est pas du tout démontrée ?
C'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a des silos disciplinaires. Et encore une fois, moi, je veux insister sur le fait que quand on parle des scénarios, on est vraiment dans une communauté dans laquelle ce qui est fait, c'est un travail autour des modèles. Et ça, c'est déjà très compliqué en tant que tel. Donc, il y a vraiment des efforts qui sont réalisés pour essayer de représenter au mieux les systèmes dont on parle, pour essayer d'intégrer l'ensemble des représentations des usages, des secteurs, de la demande. Et ça se fait petit à petit avec des biais et éventuellement des défauts. Ça, c'est normal.
Même des fois des fiascos. Là, je trouve que ça a été vraiment un
fiasco scientifique. Non, mais ce qu'il faut faire attention. Enfin, encore une fois, moi, je reviens sur le côté évaluation. Tous les scénarios qui sont proposés dans le GIEC, ce sont une collecte de tout ce qui existe dans la communauté scientifique, alors, qui est rassemblé dans une base de données et qui est ensuite organisé et classé pour pouvoir être proposé de manière un peu plus digeste, mais il n'y a pas une proposition qui dit que ce serait tel chemin qui serait le plus probable pour atteindre la neutralité carbone. Et je renvoie encore une fois à ce qui est remonté finalement dans les messages clés du résumé pour décideurs, qui sont vraiment...
C'est le texte qui est envoyé au gouvernement, au sens pluriel.
C'est le résumé, en fait, qu'on va avoir...
Comment prendre les décisions ?
Qui est du 80 pages, à peu près, parce que l'ensemble des chapitres, en fait, c'est un peu la collecte de tout ce qui existe, de tout ce qu'on a en stock, et c'est là où on va trouver des détails sur un certain nombre d'études, comme celle que Jean-Baptiste mentionne. Mais ensuite, par exemple, sur le CCS, dans les recommandations du GIEC, on dit que c'est une technologie...
Le CCS, c'est la captation du stockage de carbone. Hein.
Voilà, c'est une technologie qui sera utilisée en dernier ressort après avoir mis en œuvre tout un tas d'autres propositions.
Tout à fait.
Et c'est là où je pense que ce que ça reflète surtout, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'études sur un certain nombre de sujets et beaucoup moins sur d'autres.
Jean-Baptiste,
il y a pas mal de choses à dire. Premièrement, je pense décrire le GIEC, le groupe 3 du GIEC simplement, comme quelqu'un qui fait la synthèse de ce qui existe en dehors de lui et un petit peu... C'est pas exactement ça.
C'est pas juste l'état du champ, le groupe 3.
C'est performatif. C'est-à-dire, ils influencent profondément le champ. C'est ce que documente très très bien Lou Sturenberg. Les scénarios net zéro qui intègrent 10 milliards de tonnes d'émissions négatives qui commencent à être produits à partir des années 2005, au milieu des... C'est en vue du rapport de 2014. Ils sont produits pour ça. Ils déposent des projets de recherche européens pour ça. Donc c'est vraiment tendu à ça. Deuxièmement, il y a énormément d'autocitations dans les rapports du groupe 3 du GIEC. C'est-à-dire des chercheurs, en fait, qui parlent de leurs propres travaux. C'est massif. Donc en fait, ils produisent aussi les savoirs qui synthétisent eux-mêmes ensuite. Troisièmement, sur le cas du CCS, et je veux vraiment revenir là-dessus parce que c'est le début
CCS, je le rappelle, un captation et stockage de carbone pour que tout le monde l'intègre.
Là, l'histoire est très très claire. C'est-à-dire, vous avez en fait l'industrie fossile qui pousse le CCS dès le début, dès 1992, ils disent c'est ça, il faut qu'on pousse ça. Bon. Au début, le GIEC, le groupe 3 du GIEC est sceptique. Dans un rapport du début des années 2000, ils disent ça rend l'électricité au charbon plus cher que le nucléaire, donc ça n'a aucun intérêt. Les deux coprésidents du groupe 3 du GIEC commandent un rapport sur le CCS en 2005, et ce rapport change complètement la doctrine sur ce sujet-là. Et dans ce rapport, il y a énormément de problèmes de conflits d'intérêts, de problèmes déontologiques. Le rapport de 2005, donc écrit avec l'estampille groupe 3 du GIEC, qu'est-ce qu'il fait? Il synthétise une littérature industrielle. Il synthétise des conférences qui sont organisées tous les deux ans par l'industrie pétrolière, et pas que pétrolière, sur la capture du carbone. Donc là, il y a vraiment eu une sorte de scientifisation, de légitimation d'une expertise qui était clairement intéressée. En outre, quand je dis qu'il y a des conflits déontologiques, c'est qu'il y a des rapporteurs, je ne sais pas si je dois les nommer, qui poussent le CCS, qui créent des entreprises de capture du carbone, qui revendent ensuite ces entreprises de capture du carbone à des entreprises pétrolières. 1 milliard de dollars, cette personne en l'occurrence avait 5% des parts de cette entreprise, ça fait 50 millions de dollars, c'est quand même pas rien. Donc là, il y a vraiment des problèmes déontologiques aussi, qu'il faut vraiment que le groupe 3 du GIEC prenne sérieusement en charge.
Une réaction, Nadia Maizi, c'est vrai que c'est peut-être le point le plus important, notamment pour le grand public, ces conflits d'intérêts que met en lumière Jean-Baptiste Fressoz, également dans son article, pour expliquer cette technophilie qui ne serait pas si scientifique que ça, mais fondée sur des liens d'intérêts, notamment avec l'industrie de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Alors, je pense que ces cas qui sont documentés sont réels, mais il y a quand même un procès qui me paraît un peu fort, parce que, encore une fois, il y a une continuité dans les différents rapports du GIEC. Donc, en fait, quand on se retrouve, par exemple, il y a eu un rapport spécial sur les scénarios pour atteindre une limitation du réchauffement à 1,5 degré. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que dans la littérature et dans les travaux des différentes équipes de modélisation, les équipes s'étaient concentrées sur une limitation du réchauffement à 2 degrés. Et donc c'est à partir de là que ça crée une émulation et une volonté de produire des scénarios sur ce niveau de réduction. Et il y a donc effectivement une préparation des équipes pour les rapports suivants et donc une anticipation quelque part des trous dans la raquette qui ont pu être identifiés. Alors,
mais en quoi, pardonnez-moi, en quoi cela tempère-t-il les conflits d'intérêts qui pourraient, encore une fois, émailler le GIEC et ses différents groupes de travail?
Alors, je dis pas que ça tempère les conflits d'intérêts. Je dis simplement que, en fait, il y a une volonté d'essayer d'avoir un éclairage le plus large possible sur toutes les questions, parce que le rapport, c'est une réponse à un ensemble de questions qui sont posées par les gouvernements dans la phase de scoping, donc de préparation. Et ensuite, sur les conflits d'intérêts, moi, je suis pas historienne, donc je j'ai pas cette documentation précise en tête. Mais ce que je pense, c'est que il y a effectivement sur la recherche, sur un certain nombre de technologies, des poussées qui sont faites par des industriels, qui vont avoir des possibilités de financer des prototypes et des projets, et qui donc vont être intéressés à créer une émulation aussi auprès des scientifiques pour qu'ils orientent leurs travaux sur ces technologies en particulier. Et c'est sans doute de là que vient cette constatation que, ben oui, il y a des rapports qui vont émaner de groupes où il y a des industriels qui vont venir alimenter la réflexion.
Jean-Baptiste Fressoz, en quelques mots.
Alors, bon, c'est pas du tout des documentations particulièrement compliquées à trouver. Par exemple, Oe Zongli, l'ancien président du GIEC, était au bord de Hyundai alors qu'il était président du GIEC. Hyundai est un énorme conglomérat qui possède de la sidérurgie, etc. Le précédent, c'était Rachandra Pachauri. Il était au bord de la National Coal Corporation de l'Inde, qui est l'un des plus gros émetteurs au monde de CO2. C'est plein de centrales thermiques. Il y a le gouvernement américain nomme des gens d'Exxon, etc. Mais tout plein. Enfin, je veux dire, c'est pas l'Arabie Saoudite nomme des employés d'Aramco. Enfin, je veux dire, vraiment, le groupe 3 du GIEC est quelque chose de tout à fait spécial, quoi.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un scientifique, cette fois-ci, Jérémy Rifkin, au début des années 2000, qui promouvait une technologie qui était encore à l'œuvre, ou du moins elle devait faire ses preuves. Je veux parler de l'hydrogène.
L'hydrogène a toujours été présent dans mon esprit, car j'étais conscient que nous avions besoin d'un vecteur de stockage pour l'énergie solaire et éolienne. Mais le soleil soleil ne brille pas toujours et le vent ne souffle pas toujours. Il m'est donc apparu très clairement, il y a plusieurs décennies, que nous devions nous intéresser à l'hydrogène comme vecteur de stockage pouvant être utilisé non seulement pour stocker l'électricité solaire et éolienne, mais aussi pour les secteurs difficiles à décarboner. Nous devions nous intéresser à l'hydrogène pour le transport maritime, pour l'aviation, et en particulier pour le transport routier et même pour les véhicules plus petits. Nous devions également envisager l'utilisation de l'hydrogène dans les secteurs difficiles à décarboner, tels que la sidérurgie et la cimenterie, qui nécessitent d'énormes quantités de chaleur. Il n'était donc pas sorcier de comprendre que l'hydrogène était la voie à suivre.
Vous expliquez, Jean-Baptiste Fressoz, dans cet article, que l'hydrogène vert est une technologie qui n'a absolument pas fait ses preuves et qui pourtant occupe dans ce rapport du GIEC une place extrêmement importante, bien trop importante. Racontez-nous.
En gros, l'hydrogène, c'est extraordinairement énergivore. Il faut énormément d'électricité pour le produire. C'est très compliqué à stocker. C'est une molécule qui est toute petite, qui est compliquée à gérer. Et par exemple, quand Jeremy Rifkin parle d'avions à hydrogène, tout le monde sait que c'est le truc qui n'a aucun avenir et que ça marche pas du tout. Donc vraiment, c'est
à part certains constructeurs d'avions, même européens.
Oui, bien sûr, mais les ingénieurs n'y croient pas une seconde. Ce qui est intéressant de Jeremy Rifkin, c'est que ça fait partie de ces experts gourous d'une technologie comme ça qui tiennent des discours ahurissants, par exemple, sur l'histoire de l'énergie. Ils disent, il y a une première révolution industrielle, c'était le charbon, la deuxième, c'est le pétrole, la troisième, c'est l'hydrogène. C'est complètement idiot, évidemment, il y a de plus en plus de charbon dans le monde en ce moment. Et pour autant, vous voyez, il est pris au sérieux. C'est-à-dire, cette personne-là a beaucoup d'influence, a eu beaucoup d'audience, etc. Alors, le problème de ces... moi, ce qui m'embête beaucoup de ces rapports...
Je vous coupe juste là-dessus, pardonnez-moi, parce que sur l'hydrogène, il y a quand même des débats qui traversent la communauté scientifique.
Bien sûr,
Cet après-midi, sur le site du CNRS, je lis, l'hydrogène est considéré comme un futur vecteur énergétique important pour des applications dans des nombreux secteurs de l'économie, avec une superbe photo des trains, des avions, et marqué en grand hydrogène.
En fait, c'est normal, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas bien décarboner avec l'électricité. Et donc, on est obligé de mettre tout plein d'hydrogène si on veut atteindre la neutralité carbone. Mais à la limite, c'est pas grave, mais le problème, c'est que ça crée des bulles, ça crée des bulles économiques successives.
Oui, quoi. Mais c'est comme ça que fonctionne...
Nadia Maizy.
C'est comme ça que fonctionne la recherche sur ces domaines-là. Et c'est comme ça que naissent les innovations. Donc, en fait, on ne peut pas tout jeter a priori.
Non,
et donc,
dans
ces travaux... Encore une fois, moi, si on reparle de ce groupe 3 et du rapport qui est restitué...
Et sur la place de l'hydrogène, s'il vous plaît, dans ce rapport.
Justement, il restitue la dynamique de recherche qui existe autour de ce vecteur énergétique. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc, il y a énormément de travaux dans la communauté scientifique. Les Allemands sont vraiment très avancés. En France, oui, le CNRS, notre école des mines, beaucoup de gens sont sur ce sujet. Et donc, le GIEC fait son travail, puisqu'il est là pour collecter tout ce qui existe à un instant donné pendant 5 ans, et donc il restitue les avancées qu'il y a sur le sujet, avec aussi les possibilités et les embûches qui sont traversées.
Alors effectivement, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup...
On revient donc sur ce débat, le GIEC, au fond, rassemble, fait une synthèse de l'état des réflexions scientifiques.
Alors, qu'il y ait plein de papiers scientifiques sur l'hydrogène, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a très très peu d'hydrogène vert, c'est 0,1% de l'hydrogène qu'on utilise.
Mais là, on parle de recherche scientifique.
Vient de l'hydrogène vert. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, maintenant, Le but, c'est de décarboner l'économie avant 2050. C'est-à-dire, la recherche scientifique sur l'hydrogène, qui peut-être un jour va permettre de faire voler des avions, on peut en parler, c'est bien sympathique,
c'est
ça n'a aucun rapport avec l'objectif de 2050. C'est juste qu'il faut... En fait, il y a un vrai souci, c'est qu'il y a un problème de rapport au temps dans ce rapport du groupe 3 du GIEC. C'est-à-dire que ça prend du temps, tout ça, pour diffuser des technologies. Dans le résumé technique, donc vraiment très très haut, à un moment, ils mettent cette phrase, on peut réduire de plus de moitié, au moins la moitié des émissions de CO2 avant 2030 avec des solutions techniques qui existent. À moins de $100 la tonne. Alors oui, effectivement, on peut théoriquement mettre des panneaux solaires, ça coûte pas très cher, on peut mettre des voitures électriques, mais quel est le temps? Enfin, je veux dire, installer des panneaux solaires, c'est aussi changer tous les réseaux électriques, faut installer les batteries pour gérer l'intermittence, les voitures électriques, on voit que ça prend du temps, installer des pompes à chaleur, mais il faut des artisans pour installer les pompes à chaleur, pour rénover toutes les maisons, mais il faut énormément de travail, tout ça va prendre du temps. Et donc l'idée qu'on peut réduire de plus de moitié les émissions de CO2 avant 2030, on voit qu'ils ont un problème de conception de ce que c'est que la dynamique matérielle. C'est un problème d'historien, là, pour le coup. Je crois que, et d'ailleurs, il raconte des bêtises énormes sur l'histoire. Dans un des chapitres initiaux, ils disent, la transition énergétique pourrait aller plus vite que les transitions du passé. Mais c'est quoi ces transitions du passé? On consomme de plus en plus de tout. Ils confondent dynamique technologique et dynamique matérielle. Dynamique technologique et dynamique énergétique. L'histoire matérielle et énergétique de l'humanité est strictement cumulative. Malgré toutes les innovations qu'on a connues, toutes les matières premières ne font absolument que croître. Voilà. Donc, je crois que c'est un point de base. Quand on parle très légèrement d'innovation future pour résoudre des questions environnementales, il ne faut pas oublier que malgré toutes les innovations, les matières premières, elles, ne font absolument que croître.
Nadia Maizi, sur cette question du temps, comment est-ce que vous l'intégrez ou non à vos réflexions, justement, dans les discussions dans cette enceinte du GIEC? Et après, je voudrais qu'on parle de sobriété, mais répondez d'abord, Nadia Maizi.
Alors, justement, sur le fait que tout ça est inatteignable et inenvisageable, je pense qu'on pourrait se tourner aujourd'hui vers la Chine et l'Inde, qui sont les endroits dans lesquels on est en train d'observer une décroissance des émissions, parce qu'ils ont fait un déploiement à un niveau extraordinaire de tout un tas de ces technologies que tu viens de mentionner.
La Chine, laissez Nadia Maizi répondre, je vous redonne la parole.
Oui, c'est factuel. Et donc, il y a une dynamique temporelle aussi à prendre en compte dans la recherche sur les technologies. Il n'y a pas qu'une dynamique temporelle à prendre en compte sur les observations historiques. Et c'est très lent. Et en fait, pour un déploiement et pour ensuite un développement de prototypes à l'échelle, il faut plusieurs décades. Donc, il y a des gens, et je pense que ça, il faut vraiment le respecter, qui ont une certitude scientifique que cette voie est une voie qui mérite d'être creusée. Donc après,
pardonnez-moi, juste pour bien comprendre ce que vous nous expliquez là, si vous prenez pour exemple la Chine et l'Inde, on se dit quand même que le mode de gouvernance et la façon dont est organisée la transition écologique et énergétique serait difficile à mettre en œuvre dans d'autres pays, notamment dans des démocraties, non ?
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des choix technologiques et ils ont décidé de vraiment déployer à très grande échelle. Dans une démocratie comme la France, dans les années 70, on a fait un choix technologique sur le nucléaire. Donc, à partir de là, il y a eu un déploiement à grande échelle et on en est arrivé à structurer un système énergétique. Donc, je pense que c'est pas tant une question de gouvernance qu'une question de décision. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de décision. Donc, là, je pense qu'il faut pas confondre ce que fait le GIEC, c'est-à-dire il parle de recherche et de connaissances scientifiques avec ce que Jean-Baptiste dénonce comme étant l'avènement ou pas de solutions et le déploiement à échelle. Ça, c'est un autre sujet et qui relève en fait de la mise en œuvre, de l'adoption de ces solutions par les décideurs, du développement des infrastructures par les investisseurs, et on rentre dans une autre discussion.
Ce que vous appelez le déploiement à échelle, c'est la généralisation à grande échelle d'une technologie. Jean-Baptiste Fressoz.
Je dois dire que je pense pas qu'on puisse prendre la Chine comme modèle, sachant qu'elle installe encore plein de centrales à charbon. Alors c'est vrai qu'elle installe aussi des centrales solaires. En fait, les deux vont pas forcément l'un contre l'autre. La Chine, son intensité carbone de la Chine, de l'économie chinoise, est équivalente à celle de l'Arabie Saoudite. Elle est plus élevée que celle des États-Unis. Elle est beaucoup plus élevée que celle de tous les pays européens. En fait, la Chine est en train de faire avec le solaire ce que la France a fait dans les années 80 avec le nucléaire. Elle est en train de décarboner peu à peu son système électrique. Ça va prendre beaucoup de temps, mais entre décarboner le système électrique et décarboner toute l'économie, là, on parle pas de décennies. On parle de temps, mais ça va être très, très long. Et vraiment, penser que, voyez, la Chine, c'est un modèle et tout, moi, je trouve ça bizarre. L'Inde, les émissions indiennes vont continuer. C'est un pays qui est en plein développement, ça va croître encore.
Je n'ai pas dit que la Chine est un modèle. En Chine, il y a un déploiement technologique est en train d'être efficace, puisque la tendance est à la décroissance pour leurs émissions. Et que ça, c'est quand même des choses qu'il faut regarder avec intérêt.
Mais bien sûr, qu'est-ce qui vous ennuie, Jean-Baptiste Fressoz, intellectuellement, j'entends, lorsque vous expliquez que dans le champ scientifique en général, d'ailleurs au-delà même du GIEC, la place des technologies, des innovations comme solution pour avancer face au climat soit trop importante? Est-ce que c'est parce que, au fond, on laisse aussi de côté la véritable réflexion, selon vous, qui est la réflexion sur la sobriété et la transformation de notre modèle productif et de notre modèle de consommation?
Alors, de deux points. Premièrement, j'ai absolument rien contre les technologies en général. Je veux dire, si
parce
on
que
pouvait...
j'ai non plus. Hein.
Oui, non, bien sûr, mais c'est pour bien préciser. Si on pouvait faire voler des avions à hydrogène, je veux dire, tant mieux. Moi, j'ai aucun problème avec ça et je serais content de pouvoir reprendre l'avion sans culpabiliser. Le problème, c'est que ce faisant, en poussant comme ça, par exemple, une fois encore, les émissions négatives, on crée des faux espoirs. Moi, c'est ça qui me gêne beaucoup. C'est-à-dire, on crée l'impression que les choses sont sous contrôle, alors que les choses ne sont pas du tout sous contrôle. Et puis, on crée aussi des opportunistes et des opportunités. Par exemple, des start-up qui se créent, qui prospèrent avec de l'argent public et qui vendent des crédits carbone qui n'existent pas, qui prétendent stocker du carbone. Récemment, Climeworks, l'entreprise qui paraît-il en pointe sur les émissions négatives, en 2015, elle annonçait pouvoir stocker 1% des émissions mondiales en 2025, on se dit ouais, c'est pas mal. Maintenant, on va sur leur site en 2025. Quand on clique sur l'onglet soutenabilité, ils disent on espère maintenant atteindre la neutralité carbone en 2030. Ils n'arrivent même pas à atteindre leur propre neutralité carbone. Ils stockent rien. Et donc, en fait, ils vendent des crédits carbone qui n'existent pas. Il y a un aspect frauduleux dans cette affaire, il faut le dire. En Angleterre et en France, on commence à dépenser beaucoup d'argent pour la capture et le stockage du carbone. Cet argent, ça va principalement à des entreprises pétrolières. Equinor, Statoil, en particulier en Norvège, Eni, etc. C'est de l'argent public climat qui va dans des entreprises pétrolières parce qu'on dit, ah bah oui, il faut des émissions négatives, il faut stocker du carbone. Ben non, on pourrait quand même sérieusement discuter ça, quoi. C'est un vrai souci quand même. Donc ça, c'est vraiment le point qu'ils ont mis. Alors effectivement, sur la sobriété, je pense que c'est largement sous-équipé. Les économistes, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les modélisateurs, ils s'amusent à doser efforts technologiques et émissions négatives avec leurs ordinateurs. C'est ça qu'ils font depuis maintenant 10 ans. Ils pourraient poser plein d'autres questions. Ils pourraient par exemple poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important? Quel est le CO2 vraiment utile? Je veux dire, il y aura encore beaucoup de CO2 dans l'économie en 2050, faut pas rêver. Il y en aura plein. Le CO2, on peut en faire des choses tout à fait utiles et des choses inutiles. Il faut que les économistes nous aident à trier entre ce CO2 vital, ce CO2 utile, ce CO2 de luxe. C'est ça les vraies questions qu'il faut qu'on arrive à étudier scientifiquement et puis ça sera tranché démocratiquement à la fin. Espérons-le. En tout
cas. Nadia Maizi, sur la sobriété, la place de la réflexion sur la sobriété dans ce rapport du GIEC, quelle est-elle fondamentalement quand on lit Jean-Baptiste Fressoz, j'allais dire, on parle beaucoup, beaucoup moins de sobriété en comparaison aux nouvelles technologies et des technologies qui ne font pas leurs preuves aujourd'hui. Comment est-ce qu'on l'explique?
Alors, c'est peut-être parce qu'il a fait la recherche du mot sobriété.
Il y a plein d'autres, hein. Lifestyle changes, et c'est tous les mots qui ressemblent un peu à sobriété.
Alors,
quoi.
Parce qu'il y a quand même un chapitre qui a été dédié à ce sujet,
c'est
le chapitre
fois.
Dans lequel moi j'ai été impliquée, et qui était un chapitre sur la demande, les usages et les services. Et c'est un chapitre qui avait pour objectif d'essayer d'identifier, au-delà de parler de sobriété simplement, ce qui pouvait générer dans les changements de comportement, de mode de vie, les évaluations des rapports culturels, les normes, comment on pouvait avoir un levier côté demande pour justement avoir une solution qui ne relève pas purement de cette offre technologique. Donc c'est quand même justement là un procès un petit peu dur pour le rapport 3, puisque c'est la première fois que un chapitre entier était consacré à ces sujets, et que c'est quelque chose qui a émergé à partir du 4e rapport du GIEC, où en fait ce qui se passait, c'est que dans ce fameux résumé pour décideurs, on concaténait tout ce qui venait des différents chapitres et qui parlait un peu de comportement, d'efforts côté demande. Par exemple, dans le rapport 4, on dit que il y a une très forte confiance pour que les comportements et les modes de vie changent ces niveaux d'émissions. Parce que, par exemple, dans les transports, on peut avoir un style de conduite différent qui va permettre de limiter l'usage d'essence. Dans les bâtiments, il y a de la sobriété qui peut être faite avec de l'isolation, etc. Et là, il y a eu une demande, en fait, qui est émanée de certains gouvernements, en particulier des Indiens, pour que soit un peu plus creusé cet aspect lié à la possibilité d'avoir ces changements de mode de vie. Donc, ça va émerger notamment dans le rapport spécial du 1.5, où il y a des scénarios qui vont commencer à avoir, au lieu d'une hypothèse d'une offre technologique avec des innovations plus ou moins crédibles, qu'on aurait une diminution de la demande pour un certain nombre d'usages. Et puis, ça a permis de converger dans le plan pour la proposition du sixième rapport du GIEC avec l'arrivée de ce chapitre.
Jean-Baptiste Fressoz.
Je voulais simplement dire qu'avant le dernier... J'insiste d'ailleurs dans l'article sur la rupture que représente, à mon avis, le dernier rapport sur ce sujet-là. Mais par exemple, sur le rapport de 2014, le genre de phrase qui a introduisé ces questions de sobriété, c'était... Alors, c'est une traduction en direct. Hein, les solutions technologiques pourraient ne pas être suffisantes pour limiter les émissions de CO2. Des stratégies de développement durable pourraient être nécessaires pour aider à la sobriété. Et voilà. Donc, c'était très, très timide. Ce qu'a fait le dernier rapport, c'est enlever le conditionnel. Effectivement, c'est absolument indispensable. Dans plein de secteurs, il n'y a pas de solution technologique.
Alors,
il est grand temps de le reconnaître. Quoi.
Le conditionnel existe quand même, puisque dans le message clé qui est remonté et qui vient de ce chapitre 5, on dit qu'on pourrait réduire de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre dans certains secteurs à un certain horizon. Donc il y a quand même beaucoup de précautions qui sont prises, ouais. Et le niveau de confiance accordé à ce résultat est encore assez limité.
Et puisqu'il ne faut pas par ailleurs, Jean-Baptiste Fressoz, lire ce texte comme un texte diplomatique, c'est une synthèse qui rassemble énormément d'experts, de scientifiques. On sait que chaque mot est pesé, que même le conditionnel est le fruit d'une négociation extrêmement importante et souvent une victoire pour certains.
Alors, je pense que le texte principal qui fait 2000 pages, je pense pas que chaque mot soit pesé, parce que des fois, il y a des phrases qui sont vraiment, enfin, comment ça peut passer un processus de reviewing? Quand ils disent, voilà, la transition énergétique peut arriver plus vite que celle du passé, je comprends pas comment ce genre de phrase a pu passer. Il y a plein de choses sur, par exemple, dans le dernier rapport, il y a un truc sur l'Hyperloop d'Elon Musk. Est-ce que vraiment c'est nécessaire de mentionner l'Hyperloop d'Elon Musk? Il y a des trucs sur l'avion à hydrogène en disant, en termes d'efficience, il y a des arguments en faveur. Non, en termes d'efficacité, l'avion à hydrogène est absolument catastrophique. Donc vraiment, non, je pense que des fois, il se laisse un peu écrire.
En 30 secondes, Jean-Baptiste Fressoz, et je vous poserai la même question, Nadia Maizy, et ça veut dire, est-ce qu'il faut lire autrement ces rapports du GIEC? Est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on les lit? On a expliqué, moi le premier, à longueur d'émission, qui au fond, c'était presque une bible de l'état de la recherche scientifique aujourd'hui. Votre étude pousse à relativiser cela.
Que les rapports du groupe 3, il faut effectivement les prendre avec beaucoup de pincettes. C'est eux qui ont introduit les émissions négatives, c'est eux qui ont introduit le CCS comme outil normal dont on doit en parler.
La captation et le stockage de carbone.
Excusez-moi. Donc je pense qu'ils ont un rôle plutôt problématique en fait dans la compréhension du problème. Je pense que le mandat, faire la synthèse de toute la littérature scientifique n'est pas le bon mandat. Voilà. Parce qu'en fait, la littérature scientifique, elle est coproduite par des lobbies, il faut le prendre en compte. Elle est par structure technophile, il faut le prendre en compte. Peut-être que c'est pas le bon mandat.
Nadia Maizy, est-ce que je dois faire attention en vous lisant, vous et vos co-auteurs?
Moi, je trouve que c'est quand même un procès à charge. Le mérite de ce rapport, c'est d'essayer de faire remonter une partie de la connaissance scientifique. Je pense qu'on a beaucoup de débats aujourd'hui sur le fait d'essayer d'agréger d'autres types de connaissances qui ne sont pas forcément publiées d'ailleurs dans les littératures scientifiques et les revues qui sont plutôt côté nord. Et c'est vrai que dans la lecture du rapport du GIEC, premier intérêt, c'est un puits bibliographique pour l'ensemble des scientifiques. Et ensuite, il faut vraiment regarder ce qui est écrit entre parenthèses pour comprendre l'évaluation qui est faite des résultats proposés.
Lumière donc sur les parenthèses. Merci à vous deux de cette discussion, de ce débat. Jean-Baptiste Fressoz et Nadia Maizy, merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vincey et Antoine Héral. À suivre, après le journal, une histoire de la faute d'orthographe.